Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour et nous revoilà pour Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous en compagnie de Georges Léonard Sagneau en ce jeudi 17 juillet 2014. Bonjour Georges.
Bonjour Jacques et bonjour à tous.
Le fil conducteur ce matin, nouvel accord de coopération militaire franco-malien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense.
Il s'agit de bien coordonner l'action dans le contre-terrorisme.
Autre titre, 1400 combattants rwandais des FDLR attendus à Kisangani. Israël et le Hamas acceptent une trêve humanitaire temporaire à Gaza. Et dans la partie magazine, forte chute du nombre de décès dus au sida l'année dernière.
Avec tous ces efforts qui ont été faits, les millions de personnes qui ont été mises sous traitement dans le continent africain par exemple, on estime qu'on a de bonnes chances d'ici à 2030 de faire que le sida ne soit plus une menace importante pour la santé publique dans le monde.
N'oubliez pas non plus la tranche sportive et le grand bol d'air frais musical en fin de programme.
La France et le Mali ont signé hier à Bamako un accord de coopération militaire essentiel dans la lutte contre les groupes djihadistes qui continuent à sévir dans le nord Mali. Le point avec Idriss Fall.
Cet accord a été signé par Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, et Bandao, son homologue malien. Pendant la cérémonie, peu après son arrivée à Bamako, M. Le Drian a déclaré que ce traité va permettre de renforcer la coopération France-Mali dans les domaines du renseignement, de la formation, de l'échange d'informations pour assurer la sécurité sur le territoire malien et dans le Sahel. Cet accord entre en vigueur peu après l'annonce par Paris de la fin de l'opération Serval lancée il y a 18 mois pour traquer les groupes djihadistes dans le nord du Mali. Serval sera remplacé par Barkhane qui doit mobiliser 3000 soldats français pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.
Nous y reviendrons plus en profondeur dans une dizaine de minutes.
En République démocratique du Congo, nouvelle étape dans le processus de démobilisation des FDLR, l'ONU a annoncé que 1400 combattants et 4200 femmes et enfants allaient être transférés à Kisangani. Les premiers combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda sont attendus prochainement au centre technique de bataillon de la capitale de la province orientale, conformément aux souhaits du gouvernement congolais. Kisangani ne sera pas leur destination finale, puisque Kinshasa souhaite qu'ils soient accueillis par un pays tiers. Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Nous avons 500 FDLR et leurs familles au sud et au nord Kivu, dans les centres DDR de Kigogo et de Kanyabayonga. Ceux des FDLR qui ne voudraient pas être rapatriés au Rwanda à partir des centres de Kigogo et de Kanyabayonga devront être, dans un premier temps, rapatriés effectivement à Kisangani. Et de là, on verra si des pays tiers veulent les recevoir. On n'en est pas encore là. Le processus va commencer dès que le gouvernement donnera le feu vert. Il a été convenu de donner un délai supplémentaire de 6 mois à ces FDLR pour que le désarmement, la démobilisation se fasse au niveau des centres DDR que nous avons donc au sud et au nord Kivu. Passer de ce délai, une fois de plus, l'option militaire reste sur la table.
Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO, joint par Nicolas Pinault.
Oui, Jacques, un ressortissant allemand a été enlevé hier par des hommes armés dans l'Adamawa, au nord-est du Nigeria. N'est-ce pas, Bagazi Koura?
Les agents des forces de l'ordre travaillent assidûment pour retrouver les ravisseurs et libérer l'otage, a déclaré à l'AFP Othman Aboubakar, porte-parole de la police dans l'état d'Adamawa. Il a confirmé la nationalité de la victime. L'Allemand kidnappé travaillait comme instructeur dans un centre de formation publique de la ville de Gombi, à 110 km de Yola, la capitale de l'Adamawa. Des témoins rapportent qu'une vingtaine d'hommes armés et sur des motos l'ont attaqué devant chez lui très tôt hier matin, alors qu'il partait au travail. L'enlèvement n'a pas été revendiqué pour l'instant. Mais Boko Haram est très actif dans la région. Pour rappel, un ingénieur allemand enlevé dans la périphérie de Kano a été exécuté le 31 mai 2012 pendant un raid militaire pour le libérer. Également, un Britannique et un Italien enlevé dans l'extrême nord-ouest ont été tués en mars 2012 dans l'état de Sokoto pendant une opération pour les secourir.
J'ajoute que le Nigeria est en quête d'un prêt extérieur d'$1 milliard pour combattre le groupe armé Boko Haram. L'argent permettra de renforcer les équipements de l'armée nigériane et d'améliorer la formation militaire. Hier, le président Goodluck Jonathan a demandé au Parlement de donner son feu vert à cet éventuel emprunt, Jacques.
L'armée sud-soudanaise, qui affronte depuis décembre 2013 une rébellion, a reçu récemment de l'armement chinois, dont des lance-missiles anti-chars. Le ministre sud-soudanais de la Défense, Kuol Manyangjuk, a dit à l'AFP que le contrat de fourniture d'armement daté de 2012, soit plus d'un an avant que n'éclate l'actuel conflit qui ensanglante le pays. Jean-Roger Bion.
Dans le reliquat de l'armement chinois reçu par l'armée sud-soudanaise figurent plus de 9000 fusils d'assaut AK-56, copie chinoise de la Kalachnikov, AK-7, plus de 2000 lance-grenades, 300 lance-roquettes de type RPG, 80 mitrailleuses et 600 armes de poing avec de nombreuses munitions. Le Soudan du Sud, né sur les décombres de 27 ans de conflit contre Khartoum, a replongé dans la guerre le 15 décembre sur fond de rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les combats accompagnés de massacres ethniques ont fait des milliers, voire des dizaines de milliers de morts et chassé de chez eux plus d'un million et demi de Sud-Soudanais. Le Soudan du Sud est sous le coup d'un embargo européen sur les armes. La Chine a massivement investi dans le secteur pétrolier sud-soudanais, dont elle est également l'un des premiers acheteurs. De nombreux puits sont à l'arrêt en raison du conflit actuel.
Au Kenya, le gouverneur de la région de Lamu, arrêté le mois dernier après la double attaque survenue dans la région côtière de Mbeketuni, a comparu encore hier. Issa Timani, qui est en liberté sous caution, a catégoriquement nié les accusations de meurtre portées contre lui. Les procureurs ont demandé 2 mois de plus pour boucler leur enquête. Ces attaques, revendiquées par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab, avaient fait une soixantaine de morts.
Dans l'actualité encore, 4 soldats tunisiens ont été tués et 2 autres blessés hier dans une attaque terroriste sur le mont Shaambi, près de la frontière avec l'Algérie, où l'armée traque des djihadistes présumés liés à Al-Qaïda. C'est ce qu'a déclaré le ministère tunisien de la Défense à l'AFP. Ces attaques interviennent presque 1 an, jour pour jour, après une embuscade tendue à des soldats, également pendant le Ramadan sur le mont Shaambi.
6h07, à Zérékoré dans le sud de la Guinée. Un avion de la South African Airways a traversé une zone de très forte turbulence lors d'un vol vers Hong Kong hier. Parmi les 165 passagers, au moins 20 ont été blessés, dont 2 grièvement. Ceux qui n'avaient pas bouclé leur ceinture ont heurté le plafond de la chaîne de la cabine à appliquer l'angle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Tunisien Ahmed Abbassi, arrêté il y a plus d'un an à New York en lien avec un complot terroriste présumé visant un train, a été condamné hier aux États-Unis à 15 mois de prison, ce qui correspond à sa détention préventive, mais pas pour les accusations liées au terrorisme. L'homme de 27 ans étudiait à l'Université Laval au Canada juste avant son arrestation. Il est actuellement détenu en attendant une possible déportation dans sa Tunisie natale. Les accusations de terrorisme ont finalement été abandonné, faute de preuves solides. Ahmed Abbassi a cependant plaidé coupable à des accusations réduites en matière d'immigration.
Le mouvement palestinien Hamas a annoncé ce jeudi avoir donné son accord à un cessez-le-feu temporaire à Gaza, demandé par l'ONU pour des raisons humanitaires. Plus tôt, l'armée israélienne avait déclaré avoir accepté la même requête onusienne d'arrêt de ses attaques sur la bande de Gaza. Mais l'État hébreu a prévenu que si le Hamas ou d'autres organisations terroristes exploitent cette fenêtre humanitaire, il y répondrait fermement. Alors, au moins 25 Palestiniens, dont 8 enfants, ont été tués hier, d'après des sources palestiniennes.
Washington et Bruxelles ont durci leurs sanctions contre la Russie pour son rôle dans la crise en Ukraine. semaines. Les Américains ont notamment ciblé des entreprises russes. L'Union européenne, elle, a gelé des programmes menés en Russie par la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Quant au président Vladimir Poutine, il a déclaré ce jeudi que la Russie avait un intérêt vital à voir s'achever rapidement le conflit en Ukraine et que les nouvelles sanctions américaines contre son pays causeraient de graves dommages aux relations bilatérales avec Moscou et nuiraient aux intérêts américains. C'est du moins ce que rapporte l'AFP.
Le président américain affirme qu'il n'y a pas encore été déterminé si les négociations avec l'Iran sur son programme nucléaire seraient prolongées au-delà de la date butoir du 20 juillet pour parvenir à un accord définitif. Barack Obama d'ajouter que des progrès réels ont été accomplis, mais qu'il y a encore des différends importants à régler.
En Afghanistan, un groupe de rebelles a pris position dans un bâtiment en construction à l'aéroport de Kaboul jeudi matin, c'est ce matin évidemment, et a ouvert le feu avec des armes automatiques et des lance-roquettes RPG, rapporte l'AFP citant le ministère de l'Intérieur.
Et puis, une actrice américaine de 36 ans a été condamnée à 18 ans de prison hier au Texas pour l'envoi de lettres empoisonnées à la ricine au président Obama, au maire de New York et à un important militant pour le contrôle des armes à feu. Arrêtée il y a un an, Shannon Guess Richardson avait plaidé coupable en décembre pour détention de ce poison afin de l'utiliser comme une arme. Elle a joué dans la série américaine The Walking Dead et le film The Blind Side.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Georges et à tout à l'heure. Vous êtes encore bien branchés sur la VOA émettant de la capitale américaine. Le Monde Aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Direction Goma et Gisenyi, deux villes voisines, l'une en République démocratique du Congo et l'autre au Rwanda. Jusqu'à tout récemment, leurs habitants pouvaient librement traverser la frontière congolo-rwandaise à des fins d'emploi ou d'études, mais les autorités des deux pays imposent désormais un contrôle rigoureux. Ce qui fait grincer des dents du côté des populations qui estiment que les nouvelles règles vont à l'encontre des dispositions de la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CPGL. Depuis Goma, le reportage de notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua.
Quelques habitants de Goma remettent déjà en question les accords de la CPGL à cause des tracasseries qu'ils subissent pour aller au Rwanda. Ils sont obligés de s'aligner pendant plusieurs heures avant de recevoir un numéro d'identification pour traverser à Gisenyi.
Dans tout ça, nous venons de conclure que la CPGL ne fait rien. Parce que si la CPGL existait, ces problèmes seraient débattus à leur niveau et nous, population, nous serions libres. Pour moi, la CPGL a échoué à sa mission. Parce que si la CPGL était présente, elle aurait su que nous sommes voisins et ces problèmes de documents et de multiples jetons n'existeraient pas.
La RDC exige depuis quelques semaines que tous les Rwandais qui viennent travailler ou étudier à Goma paye un permis de séjour qui varie entre 30 et 50 dollars. Cette disposition inquiète quelques marchandes de Goma.
On leur demande une grosse somme. Entre voisins, est-ce que vous pouvez vous taxer 50 dollars américains pour vous fréquenter à cause des petits commerces, alors que nos capitales sont inférieures à ces montants? C'est la souffrance de la part des citoyens ordinaires.
Les maires des villes francophones réunis récemment à Gisenyi au Rwanda ont discuté autour de cette question. Nason Kubuyandole est le maire de Goma en RDC.
Cette situation s'est posée déjà avec acuité par les populations de tous les deux côtés. Du côté de Rubavu à Gisenyi, effectivement, les autorités ont posé la question du visa par rapport aux élèves, par rapport aux commerçants, par rapport aux gens qui ont un contrat de travail chez nous. Il y a des frais à payer et cela a été institué par l'État congolais. Et nous avons récolté ces plaintes. Nous avons coulé ces plaintes-là sous forme de recommandations dans notre rapport final. Le rapport sera transmis à la hiérarchie de tous les deux pays. Il ne faudrait pas que ces formalités soient lourdes. Nous avons besoin de formalités souples.
Pendant ces temps, c'est l'identification des Congolais qui se poursuit à la douane rwandaise, tandis que la Direction générale des migrations en RDC continue la sensibilisation afin que tous les Rwandais qui viennent travailler à Goma s'acquittent du permis de séjour. Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
Je vous le disais en titre, signature hier à Bamako du traité de coopération de défense franco-malien, un accord en marge de la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique face aux menaces djihadistes dans la bande sahélo-saharienne de la capitale malienne, le récit de Kassim Traoré.
Longtemps attendu, finalement, le traité de coopération de défense a été signé après plusieurs reports. Qu'est-ce qui explique ces rejets, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense?
Parce qu'il y avait nécessité de mettre au point les normes juridiques qui n'étaient pas achevées. Mais c'est une orientation qui a été donnée par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a souhaité cet accord de coopération qui fixe, comme pour d'autres pays africains, c'est pas le premier, la manière dont nous travaillons ensemble sur les questions de défense.
Les traités identifient, déterminent le cadre global de défense, échange d'informations et de consultations régulières sur les problèmes sécuritaires.
Nous avons par ailleurs un accord opérationnel qui existe depuis le mois de mars 2013 et qui est toujours en vigueur. Mais là, en ce qui concerne les équipements, en ce qui concerne l'échange d'informations, les communications, la formation des forces maliennes, mais aussi la sécurité juridique des militaires français présents ici au Mali, mais aussi des personnels militaires. Militaires maliens présents en France, c'est un accord équitable.
Jean-Yves Le Drian n'est pas au Mali pour la seule signature de ce document. Il sera ce jeudi 17 juillet à Gao pour parler de l'opération Barkhane qui va remplacer Serval.
L'opération Barkhane, il s'agit de bien coordonner l'action des forces françaises dans le contre-terrorisme sur l'ensemble de la zone saharo-sahélienne. Cette régionalisation de l'action va être désormais mise en place et le nom de Serval va être supprimé au profit du nom Barkhane parce que ce n'est plus la même logique. Nous sommes dans une logique beaucoup plus régionale contre le même adversaire qui sont les groupes terroristes.
Le ministre français de la Défense profitera de cette occasion pour s'adresser aux militaires français. Il rappellera la détermination totale de son pays à agir contre les activités terroristes au Sahel au profit de la sécurité de la France et de la stabilité des régions du Sahel. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Les États-Unis ont déporté 38 enfants et leur mère vers leur Honduras natal cette semaine. Une mesure qui intervient après la récente crise humanitaire à la frontière américaine, provoquée par l'arrivée continue de mineurs venant de plusieurs pays d'Amérique latine. Camille Gros-Didier.
Les États-Unis sont confrontés depuis l'automne 2013 à l'afflux massif de milliers d'enfants, parfois non accompagnés, venant du Salvador, du Guatemala ou du Honduras, à la recherche d'une vie meilleure. Ils sont environ 90 000 mineurs qui pourraient être appréhendés cette année à la frontière, soit plus que le triple des années précédentes. La crise de l'immigration le long de la frontière sud-ouest, principalement au Texas, est un nouveau défi, car cette fois-ci, ce sont des ressortissants d'Amérique centrale plutôt que du Mexique qui cherchent à passer la frontière illégalement. La crise est compliquée par une loi de 2008 qui donne aux enfants mineurs venant de n'importe quel pays, à l'exception du Mexique et du Canada, le droit à une audience devant un tribunal administratif pour déterminer s'ils sont éligibles à recevoir l'asile pour des raisons humanitaires ou doivent être renvoyés chez eux. Certains parlementaires veulent modifier cette législation pour permettre l'expulsion rapide des petits sans-papiers. Les responsables américains, du président Barack Obama au Congrès, cherchent à gérer ce qu'ils qualifient de crise humanitaire. Les critiques du président au Congrès fustigent son application laxiste, selon eux, des lois sur l'immigration. Mais le secrétaire à la sécurité intérieure, Jay Johnson, souligne que l'administration fera preuve de fermeté. Notre message est clair, si vous pénétrez illégalement dans ce pays, dans la région de la vallée du Rio Grande, nous avons l'intention de vous renvoyer chez vous conformément à nos lois et nous nous dotons de capacités supplémentaires pour le faire rapidement et de façon sûre. La Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, rechigne à voter la réforme de l'immigration, approuvée il y a plus d'un an par le Sénat aux mains des démocrates, une mesure soutenue par M. Obama. Par ailleurs, le chef de l'exécutif a récemment demandé au Congrès de voter un financement de 3,7 milliards de dollars pour faire face à la crise à la frontière.
Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre le sida dans le monde. Le nombre de décès dus à l'épidémie a reculé de 12% l'année dernière. 1,5 million de personnes sont mortes en 2013. Il s'agit de la plus forte baisse depuis le pic de la maladie en 2005. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'ONU Sida. Pour plus d'explications, Nicolas Pineau s'est entretenu avec le docteur Roger Salantunga de l'ONU Sida.
Les bonnes nouvelles sont qu'on a de plus en plus de personnes qui sont sous traitement. On sait que le traitement contribue à la prévention quand on contamine moins. Et donc, avec tous ces efforts qui ont été faits, les millions de personnes qui ont été mises sous traitement dans le continent africain, par exemple, on estime qu'on a de bonnes chances d'ici à 2030 de faire que le sida ne soit plus une menace importante pour la santé publique dans le monde.
Est-ce qu'aujourd'hui, tous les malades du sida ont la même chance d'être traités dans le monde?
Il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça qu'on se donne un délai jusqu'à 2030. Vous savez que la plupart des malades dans le continent africain sont encore sous des médicaments de première ou de deuxième génération. Ceux de troisième génération et quatrième génération sont extrêmement coûteux. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour ramener les prix des médicaments acceptables dans les différentes parties du monde. Donc, je dirais pas que les chances de traitement, l'accès au traitement est possible, mais le type de traitement reste encore un combat à mener.
Les bonnes nouvelles s'accumulent, mais quel est le prochain défi sur le front de la lutte contre le sida?
Le prochain défi sur la lutte contre le sida est une certaine tendance à la complaisance, c'est-à-dire de se dire qu'avec le médicament, maintenant, on doit baisser les bras au niveau de la prévention. On se rend compte que, par exemple, en Europe occidentale, le nombre de nouvelles contaminations recommence d'augmenter sensiblement. En Europe de l'Est, on a encore des épidémies qui sont très actives. En Afrique, on a stabilisé l'épidémie dans la plupart des pays, mais il reste encore des foyers très actifs. Et surtout, on a ce qu'on appelle ceux qui sont laissés en arrière. Les jeunes femmes, les personnes qui vivent une sexualité différente. On a encore beaucoup de groupes de population qui sont laissés en arrière, les drogués par voie intraveineuse. Donc, il y a encore énormément de travail à faire pour que personne ne soit laissé en arrière et pour qu'on aille vers la fin virtuelle de cette épidémie en 2030.
Le docteur Roger Salantunga de l'ONU Sida joint à New York. Le multimillionnaire Timothy Draper, partisan de la division de la Californie en 6 États distincts, a affirmé avoir recueilli 1,3 million de signatures, beaucoup plus que les 800 000 requises par la loi pour se qualifier en vue du scrutin de 2016. Pour Timothy Draper, la Californie est un État trop grand, trop peuplé et trop éloigné des citoyens, ce qui le rend donc difficile à gouverner. Pour comprendre les implications d'une telle démarche, Bagassi Koura a contacté Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University à Washington.
Ça serait 6 États du nord au sud de la Californie, qui aurait naturellement chacun sa propre capitale, sa propre législature, gouverneur, prison, université. C'est-à-dire que c'est la division d'un des plus grands États aux États-Unis.
Et quelle est l'idée derrière?
Ça dépend. Si vous parlez avec Tim Draper, il vous dira qu'il veut le faire parce que l'État est si grand et si long qu'on ne peut pas le gouverner effectivement. Si vous écoutez ceux qui sont opposés, ils vous disent que c'est une de plusieurs efforts par les personnes plus riches de se séparer des plus pauvres. Naturellement, il souligne aussi le coût, ça serait un immense coût, parce qu'on devrait construire 5 nouvelles capitales, créer 5 nouvelles législatures, ou 6, parce que ce serait 6 États, 6 capitales, 6 législatures, 6 gouverneurs, des nouvelles lois dans tous les endroits, des nouvelles prisons. Ça serait un coût énorme qu'il n'est pas possible, il n'est pas raisonnable.
Alors, il dit qu'il a pu obtenir 800 000 signatures, ça veut dire que la proposition sera au référendum probablement en novembre, mais ça semble être un vœu pieux, non? Le gouvernement fédéral ne va pas l'accepter.
C'est très probable que le gouvernement fédéral ne va pas l'accepter, particulièrement parce qu'il affecterait, il changerait les balances de pouvoir dans le Congrès. Parce que chaque État a le droit à 2 sénateurs. Parce que maintenant, la Californie a le même nombre de sénateurs que le Wyoming, où il n'y a pas même 1 million d'habitants. Et alors, naturellement, ce n'est pas juste, mais c'est une formule qu'on a rencontrée pour maintenir la paix parmi les différents États de l'Union.
le politologue Emilio Viano de l'American University dans la capitale américaine. Toute l'actualité sportive à présent avec Nicolas Pineux aux commandes. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
En football, nouveau classement FIFA et l'effet Coupe du Monde se fait sentir.
Eh oui, l'ancien numéro 1 mondial, l'Espagne, éliminée dès le premier tour de cette Coupe du Monde, dégringole à la 7e place alors que le nouveau champion du monde, l'Allemagne, s'empare de la tête devant l'Argentine et les Pays-Bas. Le Brésil qui a fini 4e de sa Coupe du Monde est désormais 8e. À noter le premier pays africain, l'Algérie, au 22e rang.
Courte vacances pour Luis Van Gaal.
Nommé entraîneur de Manchester United en mai dernier avant de mener les Pays-Bas à la 3e place de cette Coupe du Monde, le Néerlandais est arrivé hier à Manchester. Il s'est déjà rendu pour la première fois au centre d'entraînement, 3 jours seulement après être rentré aux Pays-Bas de courtes vacances. Donc.
À Ouagadougou, décision controversée de la Fédération de football.
Eh oui, il s'agit de la montée en première division de la SEC de Koudougou, aux dépens du Canon du Sud. Les détails avec notre correspondant à Ouaga, Salif Kabori.
Lors de la dernière journée du championnat national de 2e division, pour la montée en 1ère division, la SEC de Koudougou, basée dans la 3e ville de Burkina Faso et le Canon du Sud, ont battu respectivement le club football de Ouagadougou par 6-1 et San Matenga Football Club par 7-1. Si l'on devait s'en tenir à ces résultats, le Canon du Sud, basé dans la capitale burkinabé, était promu en 1ère division la saison prochaine. Au regard donc de ces résultats, la Fédération burkinabé de football a décidé d'invalider les 2 matchs. Le secrétaire général du Canon du Sud, Bernard Nari.
Nous n'avons pas triché. On a gagné Tengourou 5-1. On a gagné Kaya sur leur propre terrain 3-0. On a gagné FAC 3-0. C'est une équipe en attaque. Nous, on marque. Ce qui veut dire qu'on a préparé pour monter. Maintenant, ils ont décidé d'annuler la 22e journée en favorisant la SEC de Kourou, qui est sanctionnée en même temps que nous et qui accède automatiquement en première division en disant non.
Pour les responsables du Canon du Sud, la Fédération burkinabé de football n'a pas respecté le règlement. Le Canon du Sud a fait appel de la décision de la Ligue nationale de football. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
La tranche tant attendue, l'heure de passer à la musique évidemment. Et ce matin, elle nous vient du Nigeria avec une belle voix masculine, celle de Yanya qui nous interprète Koukéré. Georges et moi, vous la dédication, vous toutes et vous tous, chers amis de la VOA. Koukéré. De Yanya sur la VOA. Avant de mettre un point final au monde aujourd'hui, retour rapide aux nouvelles du jour avec Georges Léonard Sagneau.
De Koukéré, on passe aux nouvelles. Effectivement, Jacques, la France et le Mali ont signé un accord de coopération militaire essentiel dans la lutte contre les groupes djihadistes qui continuent à sévir dans le nord Mali. Un ressortissant allemand a été enlevé hier par des hommes armés dans l'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Alors, l'armée sud-soudanaise qui affronte depuis décembre 2013 une rébellion a reçu récemment des armements, Jacques.
Merci Georges. Georges Léonard Sagneau qui était également à la réalisation. John Ellison assurait la partie technique. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Merci de votre fidélité. Très bonne journée sur la VOA. À très bientôt. Take care.
Pour les dernières nouvelles en Afrique,
Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.